Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Jouffroy.
Jean-Robert Pitt, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre visite à Canal Academy. Vous êtes président de l'Université Paris-4-Sorbonne, professeur de géographie culturelle et en bon géographe, vous êtes historien, tant il est vrai que les deux disciplines sont des sœurs jumelles. Et je dis ça parce que vous aviez publié Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales. Vous présentez la fameuse fracture française entre les deux vignobles qui est surtout culturelle. Et vous affirmez qu'il y a plus d'histoire que de géographie dans une bouteille de vin. Et je vous cite encore, ce sont les amateurs éclairés qui font le bon vin. Donc, la qualité d'un vin dépend plus de sa clientèle, de l'origine de sa clientèle, des moyens de transport utilisés, plus donc que le sol, le climat, l'hydrologie. Alors, que faites-vous du terroir physique? Est-ce que c'est une illusion? Et est-ce que c'est seulement et avant tout l'histoire qui différencie les deux vignobles?
Oui, enfin, j'ai poussé le paradoxe un peu à fond en disant qu'il y a plus d'histoire que de géographie, parce qu'en réalité, il y a évidemment beaucoup de géographie dans une bouteille de vin, et dans le vin en général, surtout le bon vin et le vin de terroir qui ressemble à l'endroit d'où il vient, ça c'est de la géographie. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on néglige un peu trop le fait que le vin est porteur de culture, porteur de méthodes techniques, porteur de rêves, porteur de représentations, et que ça c'est l'histoire des hommes, c'est-à-dire c'est l'histoire des vignerons, c'est l'histoire des propriétaires, mais c'est l'histoire surtout du goût des amateurs de tel ou tel vin. Le vin est fait pour être bu, le bon vin en général a toujours fait l'objet d'une exportation en dehors de sa région d'origine, et on a fait le vin pour plaire aux clients. Le champagne étant un merveilleux exemple, le vin effervescent a été fait d'abord pour le goût anglais. Et en fonction de méthodes anglaises, beaucoup plus que de méthodes liées à la Champagne elle-même. La Champagne, au début, au XVIIe siècle, ne fournissait que le vin blanc extrêmement sec, très très sec, de raisin à peine mûr, celui du petit âge glaciaire. Et après, les Anglais ont inventé ce produit totalement industriel et artificiel qu'est le Champagne, avant que les Champenois se disent « mais après tout, il y a beaucoup d'argent à gagner, faisons le Champagne chez nous ». Et donc, la grande différence entre le Bourgogne et le Bordeaux est d'abord une différence de marché, de goût et de culture des dégustateurs. Et en même temps, ça correspond à la culture aussi des vignerons et des propriétaires bordelais, à la culture des vignerons et propriétaires bourguignons.
Vous dites que c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais qui est très intéressant et très instructif pour l'histoire. Vous parlez du privilège historique et économique de Bordeaux qui a fait que les vins de l'Amont, Cahors, même jusqu'à Pamiers, dans l'Ariège, ont été sacrifiés par l'histoire et l'économie.
Oui, puisque les Bordelais avaient obtenu d'Aliénor d'Aquitaine et de la couronne anglaise un privilège, c'est celui de vendre leur vin de l'année en monopole avant la Saint-Martin. Jusqu'à la Saint-Martin, 11 novembre, seuls les vins de la juridiction de Bordeaux avaient le droit d'être exportés vers l'Angleterre. Et donc, lorsqu'arrivait la Saint-Martin le 11 novembre, pouvaient arriver les vins du haut ou de la rive droite par les fleuves, par la Gironde et par la Dordogne, qui, à ce moment-là, n'avaient pratiquement plus de marché puisque le marché anglais était déjà saturé et satisfait. Ce qui fait que ces vignobles ont été atrophiés par ce privilège incroyable, parce qu'il a duré pendant le siècle d'occupation anglaise. Mais ensuite, les rois de France l'ont maintenu. Et c'est Turgot, sous le règne de Louis XVI, qui a finalement remis en cause ce privilège. Mais à ce moment-là, il était beaucoup trop tard, parce que le Bordelais avait fait de tels progrès compte tenu de ce marché assuré vers l'Angleterre, l'Angleterre ne pouvant pas produire de très bons vins, compte tenu du climat. Donc le Bordelais avait fait des progrès immenses et que les autres vins n'ont jamais pu rattraper ce retard.
Et aussi, vous dites que pendant le siècle d'or hollandais, au XVIIe, les voyages maritimes se sont développés et c'est la naissance des vins liquoreux.
Oui, alors les vins liquoreux sont nés à la fois pour le goût du sucre à une époque où on pouvait supporter facilement de boire sucré avec des plats salés. C'est né du goût anglais aussi qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. On prend volontiers des vins
avec
sucrés.
Avec des épices.
sucré avec des plats épicés ou avec des fromages, par exemple, avec le Stilton, qui est un très bon fromage bleu anglais. On continue à boire du Porto ou du Sauterne en Angleterre. Les Français redécouvrent seulement maintenant l'intérêt du mariage sucré-salé qu'ils avaient abandonné au XVIIe siècle. Mais ça, c'est la première raison. C'est le goût des Anglais et des Hollandais, des gens de l'Europe du Nord, qui est un goût médiéval. Et l'autre raison, c'est évidemment le fait que, compte tenu du climat bordelais, si l'on ne vendange pas les raisins blancs à temps, eh bien, s'installe en particulier en amont de Bordeaux, du côté du Sauternais, la vallée du Ciron, etc., s'installent des brouillards qui provoquent la pourriture noble, le développement du botrytis, qui est un champignon qui absorbe l'eau du raisin et l'eau des brouillards et qui, par conséquent, concentre les sucres à l'intérieur des grains de raisin, ce qui fait que quand on presse ces raisins dont l'aspect n'est pas très beau, on obtient un jus extrêmement, extrêmement sucré qui donne le Sauterne.
Oui, vous parlez du Sauterne, mais quand on pense aussi à l'eau de vie de vin qui était utilisé, c'est pour ça que je faisais un lien avec les voyages maritimes, pour les marins qui passent de longs mois en mer, il fallait un vin de garde.
Alors l'eau de vie, c'est autre chose. L'eau de vie de vin, c'est l'origine du grand succès du cognac et de tous les brandies du sud de l'Europe par rapport aux alcools de céréales du nord. C'est une autre histoire. En France, on a très peu fait de vins mutés, c'est-à-dire de vins dans lesquels on ajoutait de l'alcool. On le fait un peu à Bagnoules, c'est dans la région de Maury, dans le Roussillon, un tout petit peu avec des produits comme le Pinot des Charentes ou le Macvin ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas l'habitude française, alors que c'est très, très, très courant au Portugal, en Espagne, dans les îles, Madère, etc., ou dans les îles méditerranéennes, Sicile, Chypre, Malte, etc.
Donc ça avait un lien avec le commerce maritime.
Avec les voyages maritimes, bien sûr. Un vin qui est muté, qui a 18 degrés d'alcool, muté à l'alcool, et qui fait 18 degrés, se conserve très 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 bien.
Oui. Alors, le Bourgogne, lui, ne répond pas à l'appel du Nord, à la clientèle du Nord. Lui, c'est le duché de Bourgogne, les papes d'Avignon, on remonte au Moyen-Âge, bien sûr, et à Paris. Donc, mêmes voyages, ça ne sera pas le même vin, ça ne sera plus la même histoire.
Oui, enfin, c'est très différent parce que le Bourgogne est né d'une demande importante dans ce grand axe qu'est la vallée de la Saône, la vallée du Rhône. Et si le vin de Bourgogne a connu ce grand développement, c'est grâce aussi aux abbayes, aux évêchés très puissants de cette région de la Côte d'Or, évêchés de Langres, évêchés d'Autun, ces très grandes abbayes comme Cluny et comme Citeaux, à cet immense duché très puissant qui a été le grand duché d'Occident, le duché de Bourgogne, et auquel a fait suite, après la mort de Charles le Téméraire, le royaume de France, ce qui fait que les vins de Bourgogne ont eu un marché dirigé à la fois vers une clientèle locale très raffinée, celle des grands abbés, des grands évêques, vers les papes à l'époque d'Avignon, et vers les ducs de Bourgogne, qui eux avaient des possessions, bien entendu, dans les Flandres, et ne pouvaient pas produire de vin dans ces régions. Donc on crée une espèce d'appel vers le nord, mais pas le côté anglais, c'est le côté flamand et brabançon. Et puis ensuite, bien entendu, la cour des rois de France, puisque les vins de Bourgogne avaient tout de même beaucoup plus de qualité compte tenu du climat qui a régné à la fin du Moyen-Âge et pendant le petit âge glaciaire de l'époque moderne par rapport aux vins parisiens, qui étaient des vins extrêmement verts et rudes. Le vin de Bourgogne avait plus de rondeur. Et puis, le cépage Pinot correspond aussi à l'esprit français et à ce choix culturel de la France par rapport au Cabernet Sauvignon, qui a été le grand cépage qu'on a encouragé du côté de Bordeaux et qui correspond un peu à l'esprit de la Réforme en Europe du Nord. C'est un cépage plus dur, plus rigoureux, plus puritain par rapport au Pinot qui est plus sensuel.
Oui, d'ailleurs, vous dites qu'il y a le vignoble bourgeois, je dirais presque même aristocratique, bordelais, qui est cérébral et protestant, et puis le vignoble paysan, qui est sensuel et catholique.
Oui, alors bon, c'est un tout petit peu exagéré, parce qu'on produit aussi des vins à base de merlot en bordelais, qui sont des vins très ronds, très, très sensuels aussi, en particulier sur la rive droite, donc côté de Saint-Émilion et Pomerol. Mais le Médoc, qui est le vrai grand vin de Bordeaux, celui qui a fait l'objet du classement de 1855 par la Chambre de commerce de Bordeaux, ce sont les vins de la rive gauche, dont les grands vins rouges sont à base de Cabernet Sauvignon, c'est-à-dire de vins assez tanniques, qui demandent du temps pour être vieillis, qui sont des vins qui demandent à être décantés, qui sont des vins de méditation, des vins absolument magnifiques, mais qui ne sont pas des vins d'oubli, d'abandon et de boisson soif. En Bourgogne, on est beaucoup plus volontiers boisson soif. Je veux dire par là que le plaisir de boire du vin et d'en boire un petit peu trop de temps en temps est assez répandu en Bourgogne, alors que ça n'est pas bien vu du tout dans la bonne société bordelaise. Et d'ailleurs, les prix sont tels que, depuis longtemps, ça n'est pas possible. Cela dit, aujourd'hui, les grands vins rouges de Bourgogne atteignent de tels prix aussi que c'est très difficile de boire sans soif.
Pour en revenir au terroir physique, vous avez voulu aussi bien montrer qu'il n'y a pas beaucoup de terroirs qui restent dans l'état originel. en ce qui concerne le sol, des apports de terre, du drainage, ou bien en ce qui concerne le climat, des murgers en Bourgogne. Donc, tout est artificiel, là.
Non. Il y a quand même un climat bourguignon, un climat bordelais, je parle au sens météorique du terme, c'est-à-dire l'air, avec des températures qui sont différentes. Il fait plus chaud à Bordeaux qu'en Bourgogne, c'est évident. Les sols sont très différents, mais on a découvert assez tôt que les très bons sols du bordelais étaient des sols bien drainés, c'est-à-dire soit les sols de grave dans les croupes du Médoc, soit les sols calcaires du Saint-Émilionnais, et pas les sols de palus. À partir du XVIIe siècle, on s'aperçoit que pour faire des grands vins, il faut être sur des sols bien drainés. Et quand ce n'est pas assez bien drainé, bien on draine avec des drains en bois, avec des drains en poterie, avec des fascines, c'est-à-dire des fagots de sarment qu'on enterre dans le sol. Donc il faut drainer. Et en Bourgogne, on découvre assez vite que, évidemment, compte tenu du climat beaucoup plus rude en Côte d'Or qu'en Bordelais, pour arriver à faire des bons vins avec des raisins mûrs, il faut planter au sud, sur les pentes, bien drainées, et plutôt planter au sud ou au sud-est. Donc c'est pourquoi les grands crus de Bourgogne sont tous exposés est-sud-est, voire sud, comme le Corton Charlemagne, par exemple. Mais est-sud-est, c'est l'idéal, au soleil levant, sur les pentes. Le bas de la pente, pas le haut parce qu'il n'y a pas assez de sol, pas l'extrême bas aux confins de la plaine parce que là c'est trop argileux. Donc c'est le tiers inférieur de la pente, c'est là où se trouvent tous les grands crus.
La Romane et Conti, c'est une pente de 5%.
Un petit peu plus,
mais peut-être enfin, en tout cas, c'est, plus, mais c'est pas léger.
C'est pas très en pente, c'est le bas de la pente, mais on n'est pas dans la plaine encore. Il faut descendre pour aller jusqu'à la route nationale actuelle. Dijon-Beaune-Chalon fait encore 1 kilomètre en descendant. Donc c'est vraiment le tiers inférieur de la pente.
Enfin, vous dites aussi que si la demande s'était accrue, nul doute qu'on se serait ingénié à découvrir et à mettre en valeur de nos terroirs à grand nombre dont on sait aujourd'hui qu'ils sont légion. Donc oui. Alors, oui, l'homme participe à tout ça d'une façon directe.
Oui, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que le marché, la réputation ont favorisé un certain nombre de terroirs physiques, ou comme on dit en Bourgogne, de climat. Le nom du terroir en Bourgogne, c'est climat, les climats de Bourgogne, dans ce qui est aujourd'hui la Côte d'Or. Mais il y a des terroirs physiques absolument magnifiques plus au sud, dans le Chalonnais ou dans le Mâconnais, et qui aujourd'hui donnent des vins qui sont agréables, intéressants, mais on peut dire qu'il n'y a pas de très grands vins. Mais pour des raisons qui sont historiques, largement, plus que physiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas accumulé là le savoir, le savoir-faire, qui ne peut exister que s'il y a une clientèle qui accepte de payer le prix du grand vin. Donc aujourd'hui, quand on discute avec les vignerons de ces régions du sud de la Bourgogne, ils disent oui, on pourrait peut-être faire mieux, plus concentré, plus tirer quelque chose de mieux de notre terroir, mais arrivera-t-on à vendre au prix de revient qui correspond à ce travail? Parce que faire un grand vin avec 30 hectolitres à l'hectare, ça a un coût. Et en plus, plus il y a de réputation, et c'est pareil en Bordelais, comme partout ailleurs d'ailleurs, plus la réputation d'un vin est grande, plus à l'occasion des héritages et des reventes de propriétaires, plus le prix s'élève, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, quand on achète du vin d'un de ces très grands châteaux réputés du Bordelais ou d'une de ces appellations mythiques de la Bourgogne, ben on paye aussi le foncier. Et quand vous avez un banquier, ça existe encore maintenant, un banquier ou un homme d'affaires important qui achète un domaine en Bourgogne, ça vient de se produire à Vaudremanet, ou qui achète un château à Bordeaux, ça se produit tous les jours pratiquement, des changements de propriétaire, il dépense une telle somme pour acheter la terre, que évidemment ça se retrouve dans le prix du vin. De même chose en champagne. Pour faire du champagne, vous payez le raisin 6 euros, pratiquement, le kilo, si vous êtes une maison de champagne, au vigneron, et la terre coûte entre 1 million et 1 million et demi d'euros l'hectare. Donc évidemment, il ne faut pas vous étonner que le champagne coûte entre 20 et 300 euros ou plus, même selon les bouteilles. C'est qu'il faut payer tout ça. C'est cette réputation. Donc il y a une partie qui n'est pas objective, ou du moins qui devient objective, mais c'est une loi économique qui est celle de l'offre et de la demande.
À propos de l'offre et de la demande, il y a aussi un passage important dans votre livre parce qu'il ouvre sur l'avenir. Vous parlez du fait qu'on pense à changer certaines méthodes viticoles, l'utilisation des engrais, l'arrosage, la lutte contre l'enherbement. Qu'en est-il maintenant ? Enfin, quand je disais arrosage, c'était mal choisi et imprécis, parce que je pensais en fait aux aspersions de produits. La vigne n'a pas besoin d'être arrosée, surtout pas si on veut un vin concentré.
Ce qu'il faut dire, c'est d'abord, on n'a jamais arrosé en France, dans d'autres pays, oui, mais en France, on n'a jamais irrigué les vignes. On a noyé les vignes sous l'eau en Languedoc, en particulier dans la région de la Camargue, pour essayer de lutter contre le phylloxéra. C'était d'ailleurs un excellent moyen, mais ça ne donnait pas des très grands vins parce que c'était dans des plaines très argileuses avec des rendements de 150 à 200 hectolitres à l'hectare. Non. En revanche, on a beaucoup gorgé les sols d'engrais et partout, y compris dans les grands crus, en Bourgogne comme à Bordeaux, comme ailleurs en France ou en Champagne, ce qui est catastrophique parce que avec les engrais, vous augmentez les rendements et surtout, vous donnez à la vigne des conditions de facilité qui ne l'invitent pas à plonger ses racines profondément dans le sol. Or, pour avoir un vrai grand vin de terroir nuancé, complexe et dense, si on peut dire, il faut que la vigne plonge ses racines très profondément dans le sol et dans le sous-sol, et elle le peut, mais pour ça, il faut l'inviter à ça. Alors, on peut labourer et détruire les racines superficielles, ce qui oblige la vigne à plonger. On peut aussi laisser en herbe, ce qui fait une concurrence avec les racines. Et donc, vous avez des vignes enherbées, ce n'est pas forcément une mauvaise méthode. Donc, les engrais, on a beaucoup, beaucoup diminué partout en France, même si on n'est pas en culture biologique ou en culture biodynamique. Mais on a partout, on peut le dire, beaucoup, beaucoup diminué les intrants chimiques, les pesticides, même si on en utilise encore. Alors, évidemment, il y a les méthodes bio qui sont très encadrés, et puis la biodynamique est encore plus encadrée, mais ce sont des méthodes beaucoup plus risquées. Là, on est soumis à des aléas considérables quand il y a une attaque de mildiou, d'oïdium, on ne peut pas faire absolument n'importe quoi. Enfin, c'est très compliqué de gérer une vigne en biodynamie. Cela dit, la culture raisonnée, s'il n'y a pas trop d'intrants chimiques, donne de très bons résultats. Et puis une chose aussi qui a beaucoup diminué, c'est l'usage du soufre, parce qu'on a appris l'hygiène. Avant, les chais, les barriques, les cuves n'étaient pas... On réutilisait beaucoup de bouteilles anciennes.
Maintenant, tout est neuf. Risques.
On utilise uniquement du neuf, on connaît bien les règles d'hygiène et on utilise beaucoup, beaucoup moins de soufre, ce qui explique qu'il y a encore en France beaucoup de gens qui ne boivent pas de vin blanc en disant « Oh non, non, moi ça me rend malade, ça me fait mal à la tête, le vin blanc ne m'aime pas. Oui. » Dit-on. Bah oui, c'est un souvenir de l'époque où il y avait énormément de SO2, d'anhydride sulfureux dans les vins et où par conséquent, on avait facilement la barre sur le front quand on buvait un peu trop de vin blanc ou de mauvais mousseux ou de mauvais champagne. C'est fini aujourd'hui, vous pouvez boire autant de vin blanc vous voulez, vous n'aurez jamais plus la barre. Vous pourrez éventuellement être un peu gai si vous en buvez trop, mais vous n'aurez pas la barre au milieu du front et vous dormirez béatement si vous buvez le soir. Alors, et on peut mélanger le vin blanc et le vin rouge, bien entendu, il faut même. Si vous buvez le même vin tout au long du repas, il y a une lassitude dans votre palais, donc vous buvez de manière inattentive. Donc varier les vins au cours d'un repas, c'est la certitude d'éprouver beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, parce que vous serez surpris à chaque gorgée.
Merci.
Bria Savarin l'explique très très bien.
Merci beaucoup Jean-Robert Pitte.
Merci à vous.